Point de Mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Élodie Courtejoie.
François Guinaud, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous à Canal Académie, au cœur de l'Institut de France. Vous êtes le président de l'Académie des technologies, une académie qui a été créée en 2000. Alors, qu'est-ce que cette fameuse Académie des technologies? Qui siège à cette académie? Qu'est-ce qu'on y fait? Quel est l'intérêt de son existence? Pourquoi a-t-elle été créée en 2000? C'est ce que nous allons voir avec vous, François Guinaud. Je précise pour nos auditeurs que vous êtes également vice-président de la Fédération française des chimistes et que vous avez fait toute votre carrière dans l'industrie pharmaceutique et chimique, et essentiellement chez Rhône Poulenc. Alors, revenons à cette Académie des technologies. Qu'est-ce que c'est que l'Académie des technologies? Question toute bête, certainement très vaste pour vous, François Guinaud.
Vous posez beaucoup de questions, elles sont toutes fort intéressantes.
Et nous allons y revenir en détail.
On va y revenir en détail. Ce qu'il faut dire d'abord, c'est que la France n'a pas été la première à créer une Académie des technologies. Elle est même parmi les derniers pays à l'avoir fait. La Suède, par exemple, a créé une Académie des technologies distincte de son Académie des sciences en 1919. Les États-Unis l'ont fait il y a une trentaine d'années, les Anglais l'ont fait il y a une trentaine d'années, les Chinois l'ont fait il y a 13 ans, 20 pays en Europe l'ont fait avant nous. Mais enfin, mieux vaut tard que jamais, et comme vous l'avez indiqué, c'est en l'an 2000, en décembre 2000 pour être précis, que l'Académie des technologies a été créée avec un statut provisoire. Alors pourquoi, au fond, faut-il distinguer une Académie des technologies d'une Académie des sciences?
C'est la question que j'allais vous poser. Ou Académie pharmacie avec Académie des technologies?
Oui,
ou
je crois qu'il ne faut pas... Mais non, la pharmacie, c'est un agrégat que je connais un peu.
C'est mais
un
oui, c'est pour ça que je vous dis ça.
De technologie et de sciences aussi. Ce que j'essaie de dire, c'est que, au fond, les technologies et les sciences ressortent de deux logiques différentes. La science, c'est la connaissance pour la connaissance. Et ça correspond à un instinct humain fort. On a toujours, parce qu'on est un être humain, envie de comprendre le monde dans lequel on est. La technologie, c'est différent. C'est le savoir pour faire.
On est plus dans l'application.
On est plus dans...
Ou dans la vie courante.
Dans la vie courante. Et de ce fait, d'ailleurs, on peut dire que les technologies ont précédé les sciences. Dans l'humanité, dans l'histoire de l'humanité, les technologies ont évidemment précédé les sciences. Ce qui ne veut pas dire du tout qu'elles sont la préhistoire de la science. Et pas plus d'ailleurs qu'aujourd'hui, on pourrait dire que les technologies découlent des sciences, qu'elles seraient l'application des sciences. C'est beaucoup plus compliqué. On est dans deux logiques différentes, et effectivement, ce qu'on voit, c'est que science et technologie aujourd'hui se fécondent mutuellement d'une manière extraordinairement forte. On ne peut plus faire de la physique avancée sans avoir des technologies extrêmement puissantes et des instruments extrêmement puissants.
Alors pourquoi distinguer Académie des sciences d'Académie des technologies?
Je crois que ces deux logiques différentes pourraient justifier de les distinguer, mais ce que je crois surtout, c'est que ce qui distingue le plus les sciences des technologies, c'est leur impact sur la société. Parce que voyez-vous, pour prendre des exemples, la pilule anticonceptionnelle a beaucoup plus fait pour l'évolution de la condition féminine que 40 ans de discours. Quand l'on regarde les technologies d'information et de communication aujourd'hui, quand on voit la manière dont elles envahissent nos vies privées, dont elles bouleversent les entreprises, combien elles amplifient aussi le phénomène de mondialisation, il est évident qu'elles ont un impact très fort.
Vous parlez d'Internet?
Je parle d'Internet, par exemple. Mais prenons les lignes de train à grande vitesse. Regardez combien ça structure un espace et combien l'espace européen va changer à partir du moment où il sera quadrillé par ces lignes. Donc, ce que je veux dire, c'est que les technologies ont un impact très fort sur la vie de chacun d'entre nous et sur nos comportements. Ce que n'ont pas les sciences. Parce que lorsque M. Einstein fait la relativité restreinte ou la théorie de la relativité restreinte ou celle de la relativité généralisée, l'homme de la rue ne se sent pas bouleversé. Le téléphone mobile, le TGV, les OGM, ça le concerne. Et je crois que c'est ça qui justifie peut-être le plus qu'on distingue bien technologie et science. Et quand je distingue bien, il faut surtout, parce que ça serait stupide, ça serait totalement absurde, il n'y a rien à opposer, évidemment. Il n'y a rien à opposer entre science et technologie. Je crois qu'il est important de les distinguer. Alors, si on reste 30 secondes là-dessus, si on admet effectivement cet impact des technologies sur la société, ça a une conséquence sur l'organisation d'une académie telle que la nôtre, et sur ses actions, évidemment. Sur notre organisation, parce que, bien sûr, il faut qu'on soit un corps de référence dans le domaine des technologies. Il faut qu'il y ait un minimum de compétences qui soient réunies dans les différents domaines technologiques. C'est déjà difficile, parce que c'est un domaine extraordinairement foisonnant. Mais nous ne sommes pas organisés en discipline. Et nous le sommes par thème, effectivement, qui réunissent évidemment des problèmes de technologie et de leur évolution, mais ce seront par exemple les problèmes liés à l'énergie, à l'habitat, au transport, aux technologies d'information et de communication, à la santé, et si je me lance dans une énumération, je vais forcément en oublier, mais c'est la façon dont nous sommes organisés.
Justement, donc c'est la question que je voulais vous poser, c'est là où je voulais en venir. Donc, vous le dites vous-même, Académie des technologies, c'est quelque chose d'assez vaste, de très foisonnant, c'est le terme que vous avez employé, et effectivement, quand on se penche sur votre site internet, académie-destechnologies.fr ou .com, il faudra que je vérifie, en tout cas, lorsque l'on se penche sur votre site internet, on voit qu'il y a une douzaine de commissions qui vont traiter de sujets vraiment divers et variés, les énergies renouvelables, l'alimentation ou le transport communication, par exemple le train à grande vitesse, le TGV. Comment vous vous appropriez ces différents thèmes aussi différents ?
Se les approprier n'est peut-être pas le mot que j'aurais choisi. Nous nous y intéressons et nous y intéressons pourquoi ? Parce que nous pensons que dans notre pays aujourd'hui, dans le monde occidental d'une manière générale, le fait que ces technologies aient un tel impact sur la société et sur les comportements des gens est très fortement ressenti. Et que l'homme de la rue refuse de plus en plus, et il ne faut pas lui en vouloir, refuse de plus en plus qu'on lui impose des choix technologiques auxquels il n'a pas le sentiment de participer. Alors ce que nous essayons de faire au travers des commissions que vous venez d'évoquer, mais aussi au travers des groupes de travail plus ponctuels et à durée plus courte, qui s'intéressent à des problèmes plus précis que nous animons, ce que nous essayons de faire autour de cela, c'est effectivement de réconcilier, j'allais dire, l'opinion publique et les décideurs. D'être, si je disais, l'ambition de notre académie, c'est de mériter de devenir l'intermédiaire de choix entre les décideurs et l'opinion publique. C'est un vrai problème de société aujourd'hui.
Mais alors, suite à ces commissions, il y a des rapports qui sont certainement rédigés. Qu'est-ce qu'il en ressort de ces rapports ? Est-ce qu'ils sont consultés par les gouvernements ? Comment ça se passe concrètement ? À quoi ? Enfin, je vais vous repousser dans vos retranchements, mais à quoi vous servez ?
Je viens de dire à quoi nous aspirons à servir. Nous aspirons vraiment à être reconnus comme cet intermédiaire de choix entre les décideurs et l'opinion publique. Alors ça veut dire effectivement publier des rapports. Des rapports que nous publions spontanément, j'allais dire, sur des domaines.
Ce ne sont pas des commandes que l'on vous passe ?
Ce peut être aussi des commandes. C'est déjà arrivé que le gouvernement, les gouvernements successifs d'ailleurs, nous saisissent d'un certain nombre de questions. Ça a été le cas sur la brevetabilité des logiciels du temps du Premier ministre Jospin. Ça a été le cas plus récemment et bien avant la loi d'orientation sur la recherche, sur la manière de repenser le système de recherche et d'innovation en France. Voilà, ça c'est des rapports, ça c'est le côté très académique. Mais ça peut être aussi des motions, des avis que nous publions, et c'est surtout des actions que nous essayons de mener et de multiplier en région, à l'international, avec d'autres académies des technologies.
Là, vous pourriez nous donner peut-être des exemples d'actions ?
Alors oui. Par exemple, nous venons de renouveler, c'était jeudi dernier, à Dijon, nous avons renouvelé la convention qui nous unit à l'Association des régions de France. Nous l'avons renouvelée en la renforçant. Et j'étais là avec l'ensemble des présidents de régions, parce qu'on voit bien que dans le domaine des compétences, dans les domaines de compétences qui sont ceux des régions aujourd'hui, on trouve la formation, on trouve l'innovation, on trouve la structuration des territoires, on trouve énormément de choses qui rejoignent bien le fait qu'ils participent à des décisions, ils ont en face d'eux et avec une certaine proximité une opinion publique qui s'interroge sur les choix qui sont faits. Donc ce que nous voulons, c'est effectivement être avec eux et auprès d'eux pour jouer le rôle que je viens de dire. Alors, on peut être précis, la semaine dernière aussi, vous voyez que les choses vont vite, 2 jours avant cette signature à Dijon, j'étais avec quelques académiciens à Laon, préfecture de l'Aisne, et nous rencontrions là, nous tenions un séminaire fort intéressant sur les agro-ressources non alimentaires. Alors évidemment, nous étions là avec les responsables du pôle de compétitivité à vocation mondiale qui s'appelle Agro-Ressources et Industries, et on a eu un premier débat de fond sur toutes ces questions. Au mois d'octobre, nous étions à Lille, et là, pendant toute une journée, nous avons eu une séance de l'Académie, car nous en faisons aussi en région, une séance de l'Académie ouverte au public sur les problèmes de transport de personnes et de fret, parce que vous savez que le Nord-Pas-de-Calais est une région qui, d'abord, est une région clé en matière de circulation et de mobilité dans cette partie de l'Europe. Et surtout parce que le Nord-Pas-de-Calais s'est donné effectivement comme orientation stratégique de devenir la région qui s'intéresse le plus fortement à ces questions-là. C'est là qu'est situé par exemple le pôle de compétitivité, pas à vocation mondiale, le pôle de compétitivité mondiale qui s'appelle ITRANS. Nous étions, je peux multiplier les exemples,
oui, mais...
nous étions à Rennes, nous étions à Douai, dans les derniers mois, nous étions à Toulouse le 30 novembre avec l'Académie.
Vous ne restez pas, vous n'êtes pas cantonné à Paris en fait,
non.
C'est ça que vous voulez
notre
nous faire
académie,
dire.
Que... je vais vous faire une confidence. Notre Académie, peut-être parce qu'elle est la plus jeune des académies, se veut la moins académique possible et elle se veut le moins atteinte de parisianisme possible. Et c'est pourquoi elle sort beaucoup. Et c'est pourquoi nous voulons multiplier ces actions avec les régions, comme nous voulons multiplier les actions au plan international.
Alors, est-ce que vous développez également des relations avec l'éducation nationale? Par exemple, la semaine dernière, il y avait un colloque au Conseil économique et social sur les changements climatiques. J'ai eu la chance d'y assister. Il y avait donc une grande partie des membres de l'Académie des technologies, en tout cas une partie, qui était présente. Et il y avait également des lycéens ou des classes prépa. Est-ce que ça fait partie aussi de vos fonctions, de vos missions, de travailler avec les jeunes générations?
Alors nous sommes très très attachés à tous ces problèmes de formation. En collaboration étroite avec l'Académie des sciences, nous participons maintenant à ce magnifique programme qui est la main à la pâte. Mais dès le début aussi, avec l'équipe de l'Académie des sciences, nous avons formé une équipe commune pour ce qui s'appelle l'enseignement intégré des sciences et des technologies au collège. C'est une expérimentation qui a commencé à partir du mois de septembre dernier, qui touche aujourd'hui 19 collèges dans lesquels on est très investi. Mais au-delà de ça, les problèmes de formation, et notamment de formation professionnelle et technologique, nous tiennent énormément à cœur. Pourquoi ? Parce que ce sont les plus délaissés. Et je crois qu'on ne dit pas assez que 48% d'une classe d'âge aujourd'hui, au sortir du collège, rentre dans ces formations professionnelles et technologiques, et ils sont maltraités. D'abord parce que la plupart y vont en étant sélectionnés par l'échec, ce qui n'est jamais quand même un moyen très, très positif. Et deuxièmement, parce qu'on voit bien que...
C'est ce qu'on appelle la voie de garage.
Ça les conduit beaucoup dans des impasses et c'est une situation qui est intolérable. Donc nous sommes véritablement très, très engagés sur ce problème-là et nous continuerons à nous y exprimer avec force. Au-delà de ça, et systématiquement, lorsque nous tenons des assemblées en région, nous consacrons une demi-journée à rencontrer justement des corps professoraux et des élèves des lycées professionnels et technologiques. À Lille, j'étais avec d'autres confrères dans un petit lycée à côté de Tourcoing, magnifique petit lycée professionnel, un remarquable exemple de reconversion où une équipe pédagogique extraordinaire autour d'un proviseur vraiment remarquable a converti un lycée en perdition qui était englué dans des problèmes de formation de comptabilité pour les garçons et de secrétariat pour les filles en un lycée professionnel transport et logistique qui a demandé de gros efforts à ce corps professoral. Toutes les enseignantes, notamment, qui enseignaient le secrétariat, se sont formées à la logistique, et ça donne un lycée qui a été véritablement transfiguré en moins de 7 ans. Je dis ça parce que, après avoir dit que c'est un énorme problème en France, il y a des solutions, et il y a moyen, effectivement, de faire évoluer les choses, et si notre académie peut y contribuer, je crois que elle en serait très heureuse.
Ça, c'est pour la partie enseignement. On sent bien que c'est vraiment une partie qui vous tient à cœur. Est-ce que vous avez aussi une participation quelconque dans les projets, même qui ne sont plus à l'état de projet, comme ITER à Cadarache, ou comme on vient d'en entendre parler hier, le synchrotron Soleil au sud de Paris? Est-ce que vous avez une place dans ces...
Vous touchez là à de grands et de magnifiques programmes, ITER, programme à très long terme, programme tout à fait international. Nous avons eu à débattre de ce projet. Nous l'avons fait avec les plus éminents responsables du projet. Soleil, évidemment, un certain nombre des nôtres y sont fortement investis. Je pense notamment à la présidente du CNRS, Madame Bréchignac.
Catherine Bréchignac.
Qui est des nôtres et qui est membre du conseil académique. Mais d'une manière générale, la formation, je l'ai dit, nous intéresse. L'innovation, bien sûr, nous intéresse. Et de ce point de vue-là, nous sommes très investis dans tous les cénacles qui ont à y participer. Si on prend les pôles de compétitivité, 5 des nôtres faisaient partie du groupe de 25 qui ont participé à la sélection de ces pôles. En ce qui concerne les instituts Carnot, qui sont une innovation originale dans le domaine de la recherche partenariale, un peu bâtie à l'image des instituts Fraunhofer d'Allemagne. Ces instituts Carnot, je préside le comité de sélection, le ministre nous a chargé d'assurer le suivi, on en est au deuxième appel d'offres qui se termine demain. Voilà, donc les choses continuent, et voilà une innovation, j'allais dire, structurelle, créée par le pacte de la recherche, dont j'espère qu'il trouvera sa place, parce que il faut, vous le savez bien, renforcer la recherche partenariale et faire que les bons laboratoires de recherche s'intéressent effectivement aux problèmes de l'innovation, aux problèmes posés par l'innovation dans les entreprises. RTRA, les réseaux thématiques de recherche avancée, le comité de sélection était présidé par notre ami Jean Dercourt, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences. J'y étais l'un des membres et on a participé donc à cette très intéressante approche aussi de l'excellence en matière de recherche. Mais je peux continuer parce que vous l'avez peut-être noté sur notre site, nous sommes la seule académie en Europe à avoir en Assemblée Générale voté une motion sur le projet de l'Union Européenne et de la Commission, sur l'Institut Européen des Technologies.
Donc c'est un projet en cours, là vous êtes dans
les
projets
en cours. Et pour ne rien vous sceller, Monsieur Barroso m'a écrit depuis cela, Monsieur Figel aussi, et nous sommes un certain nombre maintenant à devoir participer à l'élaboration dans le détail de cette idée de l'Institut Européen de Technologie.
Et cet Institut Européen serait où ? Serait en Allemagne ? Serait en Italie ?
Serait
en France ?
Partout.
Serait partout.
Car ce serait un institut...
Ce serait une fédération.
Un institut sans mur, mais qui fédérerait effectivement des laboratoires dans un souci effectivement d'excellence technologique, car c'est bien de technologie qu'il s'agit. Monsieur Barroso y est très attaché, en raison du fait que on a constaté, il a constaté comme d'autres en 2005, que la stratégie de Lisbonne, qui était à mi-parcours en 2005, était un fiasco si on ne réagissait pas. Et l'une des manières dont il a souhaité réagir a été de lancer cette idée d'un institut européen de technologie. Il y est très attaché. On en est à la troisième communication de l'Union européenne, de la Commission au Conseil des ministres. Donc c'est quelque chose qui avance et notre académie s'est bien placée dans cette réflexion.
Alors là, c'était pour parler de la forme. Mmh. C'était pour parler du fond plutôt de l'Académie des technologies. Abordons la forme. Vous êtes ici à l'Académie des technologies créée en 2000 en France, plus de 230 à peu près.
Oui.
Alors vous disiez que vous étiez une académie jeune. On pourrait se poser la question de savoir pourquoi il n'y a pas plus de femmes vu que vous êtes une académie jeune.
Eh bien, c'est quelque chose qui nous préoccupe énormément. Mais le phénomène, il ne faut pas se poser de fausses questions. À partir du moment où la sélection est faite d'une certaine manière et qui correspond à ce qu'était le comportement des contemporains de l'époque, il y a encore peu de femmes qui répondent aux critères d'élection. Mais ce que je peux dire, c'est que...
Vous ne pratiquez pas encore la parité?
Non, parce que je pense pas que ce soit... Je crois que ce serait assez insultant pour les femmes, d'abord. Par contre, les femmes qui sont avec nous sont d'une extraordinaire qualité. J'en citerai que deux en me limitant au conseil académique. Dans le conseil académique, nous avons Catherine Bréchignac, présidente du CNRS, qui est une physicienne de renommée mondiale. Et nous avons Claudie Aigneret, que je n'ai pas présentée plus que ça. Tiens, par parenthèse... Voilà deux femmes qui, l'autre jour, alors qu'elles ont quand même beaucoup à faire, sont allées à Douai rencontrer tout un groupe de lycéens et de lycéennes, surtout, pour essayer
de les motiver
de faire
dans une
en sorte
dans
que
une
les jeunes filles, en particulier, reviennent vers les filières scientifiques.
Filières scientifiques.
Mais là encore, c'est un débat... qui est très lié à ce que nous disions au début. Je crois beaucoup que cette désaffection des jeunes, d'une manière générale, en Europe et aux États-Unis, cette désaffection des jeunes pour les carrières scientifiques et technologiques provient beaucoup des peurs que l'on cultive tous les soirs au journal de 20 heures contre les nouvelles technologies.
Ah, vous pensez?
Ah oui.
Et pourtant, que les nouvelles technologies sont mises en valeur travers l'outil Internet.
Oui.
À moins que vous fassiez référence peut-être à l'énergie nucléaire, qui là, effectivement...
Oui, alors ça, c'est pas une technologie tout à fait nouvelle, mais je n'entends pas dire tous les soirs à 20h d'énormes choses positives sur les OGM. Pas toujours non plus sur les nanotechnologies.
Sur la recherche médicale, c'est plutôt mis en valeur, vous ne pensez pas?
Vous me parlez de recherche médicale, alors effectivement...
Ou sur la recherche sur les cellules souches, par exemple.
Oui. Bon,
des sujets qui, à chaque fois, sont assez polémiques. Est-ce qu'on parle d'embryon ou pas? Est-ce que, effectivement, mais ça,
oui.
C'est des questions plutôt
oui, mais
éthiques.
Là vous dérivez vers une chose qui était celle que je disais tout à l'heure. Le progrès technologique est en question. Les OGM, les nanotechnologies, les antennes pour les téléphones mobiles. Le progrès technologique est en question. Et quand vous passez du temps avec les jeunes, je vous assure que c'est quelque chose de très impressionnant. Ça nous est arrivé de nous entendre dire par des gamins en terminale « Mais pourquoi vous n'arrêtez pas tout ça ?» Donc, à force de cultiver des peurs tous les soirs, on en arrive à avoir distillé une espèce de peur du progrès. Et c'est vraiment ça qu'il faut arriver à surmonter. Et parce que je crois vraiment que la désaffection des jeunes tient beaucoup à cette peur du progrès technologique.
Mais des jeunes qui, à la fois, ont leur téléphone portable, ont Internet, ont le Wi-Fi. Alors, c'est, en même temps, c'est tout le paradoxe d'un adolescent. Enfin, après, je ne sais pas si...
Pas que des adolescents.
En tenir compte.
Oui, mais bien sûr qu'il faut en tenir compte. Bien sûr. C'est pour ça qu'on est très à l'écoute de tout ça. Il faut en tenir compte. Et d'ailleurs, l'idée de l'Académie, ça n'est pas du tout... de dire aux gens, mais vous posez mal le problème, vous n'avez rien compris, je vais vous dire la vérité. C'est pas du tout ça. Et d'ailleurs, si vous avez assisté, comme vous l'avez fait, à la conclusion de nos Michel travaux Albert, avec le Conseil économique et social, notre souci est bien d'éviter d'apporter des certitudes, mais d'amener les gens à se poser les bonnes questions. Et à dire d'une manière honnête, là on sait, là on doute, et là on ne sait pas. Alors qu'est-ce que doit-on faire quand on doute? Quelles sont les recherches qu'il faut faire? Comment... Et que doit-on faire quand on ne sait pas? Et véritablement, il faut qu'on arrive à remotiver les gens à avoir une méthode qui ne soit pas purement émotionnelle. Parce que pour le moment, c'est quand même ça qui nous embarque dans des choses qui sont dommageables pour les jeunes générations elles-mêmes.
Alors, pour toucher les jeunes générations, est-ce que le fait d'avoir Jean-Louis Etienne, membre de l'Académie des technologies depuis 2004 ou 2005, il me semble, en tout cas récent membre de l'Académie des technologies, dans cette académie qui est elle-même récente, est-ce que pour vous, c'est une manière de vous ouvrir pareil aux jeunes générations, puisque Jean-Louis Etienne est un nom connu pour les...
Mais Jean-Louis, qui est un ami personnel, serait heureux que vous le mettiez dans les jeunes générations.
Je voulais dire par là, alors je me suis certainement mal exprimé, que c'était un nom connu pour les adolescents. Donc c'était une manière peut-être aussi supplémentaire de vous ouvrir aux lycéens et étudiants.
Bien sûr, et Jean-Louis a depuis longtemps eu le souci de partager justement avec des jeunes et avec l'éducation nationale d'un point de vue général les retombées des actions qu'il conduit. Claudie Agnuret, je vous assure aussi, quand vous l'emmenez avec des lycéens, ça marche. Non, vous avez raison d'insister là-dessus. Notre académie, je l'ai dit, n'est pas organisée par discipline et elle est très attentive aussi à ne pas s'enfermer dans la compétence technologique pour la compétence technologique. Et c'est pourquoi il y a des personnalités comme Jean-Louis, des personnalités comme Claudie Agnuret, des gens comme Jean-Louis Etienne, comme Claudie Agnuret, mais aussi des philosophes du risque, mais aussi des architectes, parce que il faut que la société se retrouve dans la composition de notre institution, non, de notre compagnie.
Eh bien, merci François Guinaud de nous avoir éclairé sur cette Académie des technologies. Et puis j'espère à très bientôt pour une nouvelle émission.
Écoutez, merci beaucoup à vous et ce sera avec plaisir que je reviendrai vous parler, je l'espère, d'actions nouvelles et efficaces de notre Académie.
Merci beaucoup, à très bientôt. Thank you.